Histoire, actualité comme tous les vendredis, actualité des publications d'histoire, actualité des expositions d'histoire dans le cadre de la journée Récits du monde moderne de France Culture autour de l'Amérique aujourd'hui. Dans 5 minutes, la fabrique plongera dans l'Amérique noire à l'occasion de la parution d'une somme, la seule somme d'ailleurs en français sur le sujet, Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice aux éditions de La Découverte. Son auteur, Caroline Roland-Diamond, est avec nous et nous racontera donc 150 ans de débats et de luttes dans l'Amérique noire. En deuxième partie de cette émission, elle sera rejointe par le commissaire associé de l'exposition qui s'appelle Attica USA 1971, images et d'une révolte. Philippe Artière, l'historien, qui nous racontera cette révolte dans une prison américaine au tout début des années 70, révolte à laquelle ont participé beaucoup justement de Noirs américains qui étaient enfermés dans cette immense prison de l'État de New York. Mais pour commencer cette émission du vendredi, désormais, vous savez peut-être que nous avons un petit précis d'histoire dans lequel un historien nous raconte une histoire de vote et d'élection.
35. Allez-y, madame. Mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
François Mitterrand. Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Vous comptez les deux registres.
François Mitterrand. Est-ce qu'on fait dans les épingles?
Non.
Oui, mais pour les recompter après. On laisse ça et on met le lot. D'accord.
Ça fait 7. Il est 20h, le scrutin est clos.
Loin de François Mitterrand, loin de François Hollande ou encore d'Emmanuel Macron ou de Nicolas Sarkozy, bonjour Jacques Dallarin.
Bonjour.
Vous êtes historien du Moyen-Âge, vous publiez au CNRS édition François d'Assise en question, et quand je vous ai demandé une chronique sur le vote, après vous avoir lu souvent sur ces questions de vote, en particulier dans les milieux ecclésiastiques du Moyen-Âge, vous m'avez parlé justement de François d'Assise, Jacques Dallarin.
En 1209, François d'Assise se rendit à Rome avec un groupe de compagnons pour faire reconnaître sa forme de vie par le pape Innocent III. En 1220, au moment même où cette fraternité de pénitents obtenait le statut d'ordre des frères mineurs, le fondateur se retira du gouvernement et désigna un premier puis un second remplaçant, frère Élie. Lorsque François mourut en 1226, Élie convoqua un chapitre général qui, en 1227, au lieu de le confirmer dans ses fonctions, désigna Jean Parenti comme ministre général. En 1230, Élie contre-attaque. Le chroniqueur Thomas d'Eccleston relate la scène. Au chapitre lors duquel eut lieu la translation de saint François, ceux auxquels frère Élie avait concédé de venir au chapitre, il permit en effet de venir là à tous ceux qui le souhaitaient, voulurent le faire général contre les ministres provinciaux. Ayant pris Élie dans sa cellule, ils le portèrent de leurs mains à la porte du chapitre et, après avoir enfoncé la porte, ils voulurent l'installer à la place du ministre général. Voyant cela, le général, frère Jean Parenti, se dénuda devant tout le chapitre et, pris alors de honte, ils cessèrent leur grand tumulte. L'initiative d'Élie de convoquer tous les frères et de les laisser participer à l'élection du ministre général était contraire à la règle de l'ordre confirmée par la papauté en 1223 qui prévoyait que tous les frères soient tenus d'avoir toujours un des frères comme ministre général et serviteur de toute la fraternité et qu'ils soient tenus de lui obéir et qu'à son décès, l'élection de son successeur soit faite par les ministres provinciaux et les custodes au chapitre de la Pentecôte auxquels les ministres provinciaux sont tenus de se réunir en quelque lieu qu'aura fixé le ministre général, et cela tous les 3 ans ou à un autre terme plus grand ou plus petit, comme il en aurait été ordonné par le ministre. Et si, à un moment, il apparaissait à l'ensemble des ministres provinciaux et des custodes que le ministre n'est pas apte au service et à l'utilité commune des frères, que les frères auxquels a été confiée l'élection soient tenus au nom du Seigneur de s'en élire un autre pour ministre.
C'est clair, effectivement.
À contre-temps, la stratégie d'Élie renoua en 1230 avec la pratique du vivant de François, le chapitre « Comme assemblée plénière de tous les frères, se contentant d'entériner les admonitions d'un fondateur charismatique ». Que conclure de cette affaire ? D'abord, rappeler qu'au Moyen Âge, d'ordinaire considéré comme un trou noir de la démocratie, l'élection se pratiquait dans les milieux les plus divers. L'Église, des communautés religieuses au sommet de l'appareil, avec l'élection du pape par les cardinaux, mais aussi les communautés urbaines ou paysannes, les assemblées nordiques, sans oublier l'élection pour désigner l'empereur germanique, dont la charge n'était pas héréditaire. C'est une évidence, mais il faut toujours enfoncer cette porte qui devrait être ouverte. La règle franciscaine de 1223 prévoit un mandat à durée déterminée avec possibilité de destitution. Elle n'a rien à envier à la démocratie moderne. Ensuite, il convient de rappeler qu'une forme politique n'a de sens qu'en relation à son assise sociologique. L'épisode de 1230 oppose deux systèmes. Une élection à large base, peu soucieuse des formes, propice au coup de force, et une élection huilée, réservée à une élite. Il est facile de s'entendre entre gens de même milieu, de même culture, mais le vrai défi démocratique est celui du suffrage universel. Enfin, reste le geste de Jean Parenti, se mettre à nu devant l'Assemblée. On en entrevoit bien les connotations symboliques, anthropologiques. Le geste n'en est pas moins proprement sidérant. Il s'avère décisif. À toutes fins utiles, je livre la pièce au petit précis d'histoire à l'usage des candidats.
Merci Jacques Dallara de nous avoir raconté cette histoire. Et vous savez que, en tout cas dans les élections américaines, certains artistes ont déjà mis à nu un des candidats, puisque c'était un scandale il y a peu de temps, une sculpture, une statue de Donald Trump qui avait été exposée entièrement nue, donc dans les rues de New York, je crois, effectivement. C'était peut-être un rappel de cette règle lointaine que vous nous racontiez, donc à propos de Saint François d'Assise. Je rappelle que vous êtes l'auteur de François d'Assise en question, qui vient de paraître aux éditions du CNRS.
Thank you very much, ladies and gentlemen. And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it. Bear strange fruit, blood on the leaves, and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here is a strange and
bitter
cry. On ne peut pas écouter ce Strange Fruit de Billie Holiday, enregistré en 1954, sans avoir le cœur serré, et c'est une façon peut-être de entrer dans l'univers qui est celui de votre livre, Caroline Roland-Diamond. Bonjour.
Bonjour.
Avec Anaïs Kien, nous allons vous interroger autour de ce Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice, 19e, 21e siècle, aux éditions de La Découverte. Il paraît la semaine prochaine. Une des questions importantes, c'est pourquoi avoir choisi cette très longue durée pour raconter cette Amérique noire, justement, depuis la fin de l'esclavage, donc 150 ans, en gros, d'histoire jusqu'à aujourd'hui, Caroline Roland-Diamond.
Il m'a semblé important de faire cette histoire très longue des luttes des Noirs pour l'égalité et la justice, parce que d'ordinaire, quand on pense à ce mouvement de mobilisation, on pense toujours à la grande période des années 50, années 60, et aux grandes figures allant de Martin Luther King, Rosa Parks et Malcolm X. Et quand on se limite à une histoire aussi restreinte dans le temps, on n'a pas les clés pour comprendre les causes historiques, les fondements ancien des inégalités actuelles. Donc il m'a paru essentiel de remonter finalement à cette période, voilà, au basculement original qui est l'émancipation, la fin de l'esclavage, pour retracer progressivement à la fois donc les évolutions de la communauté africaine-américaine dans le temps, dans une ampleur nationale, essayer de comprendre ce qui se passe dans le sud mais aussi dans le nord, et donc à travers des grandes périodes, mais aussi de pouvoir sortir de cette vision stéréotypé qu'on a encore de la lutte des Noirs.
Anaïs Kien.
D'autant que vous rappelez bien, Caroline Roland-Diamond, que cette période des années, du milieu des années 50 au milieu des années 60, qui est la période la plus connue, la plus effervescente, la plus visible aussi, finalement, elle correspond à un moment où on perd une partie des arguments de la lutte pour l'égalité au profit de cette lutte pour les droits civiques à laquelle les pouvoirs publics acceptent de contribuer. Et vous dites bien que on perd du coup cette lutte pour l'égalité économique qui va tordre le débat et tordre l'analyse en fait de la situation des Noirs dans la société américaine pour de très nombreuses années ensuite.
C'est là, à mon avis, où se situe tout le cœur du problème. Cette focalisation sur cette expression des droits civiques. Donc finalement, l'objectif était la levée des obstacles légaux, des obstacles juridiques à l'égalité. Cette focalisation sur cet aspect purement d'égalité formelle, du droit des Noirs à être acceptés dans tous les espaces publics et du droit des Noirs à retrouver le droit de vote, ce qui était un élément essentiel de la citoyenneté. Cette focalisation a causé l'effacement du problème des inégalités économiques et sociales.
Qui n'est pas seulement un problème lié à la situation des Noirs au sein de la société américaine, d'ailleurs.
Non, c'est un problème que partage l'ensemble de la classe ouvrière américaine, qu'elle soit noire, blanche, latino ou amérindienne.
Ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des dimensions évidemment raciales à cette question noire aux États-Unis. Il ne faut pas effectivement les mettre de côté, mais qu'il y a aussi des dimensions culturelles que vous développez dans cet ouvrage, en particulier tout ce qui tourne effectivement autour de ces musiques qu'on a pu entendre et qu'on va entendre dans cette émission, mais aussi les écrits des Noirs émancipés à partir des années 1880, le théâtre, le cinéma, etc., etc. Qu'il y a aussi des dimension sociale qu'il ne faudrait jamais oublier dans cette lutte justement des Noirs pour leur émancipation dans la société américaine, Caroline Roland-Diamond.
Il y a bien sûr l'histoire que j'ai écrite, c'est une histoire de la lutte contre le racisme. Mais c'est aussi une histoire de la création, de la créativité de la communauté africaine-américaine au fil de ces 150 ans d'histoire que je retrace.
Et des obstacles qui lui ont été mis à son émancipation.
Exactement. Mais le point sur lequel j'ai voulu un peu insister, c'était qu'il faut pas, on peut pas imaginer la communauté africaine-américaine comme uniquement une communauté qui réagirait au racisme. Et il faut aussi voir que à tous les niveaux, dans le niveau des quartiers, dans les comtés ruraux, voilà, dans tous les espaces de vie de cette communauté africaine-américaine qui est extrêmement multiple, il y a eu, à toutes les époques de l'histoire, une inventivité, une créativité.
Créativité qu'on connaissait du temps de l'esclavage, déjà, pour pouvoir justement arriver à survivre et à vivre dans ce contexte extrêmement contraignant qu'était le contexte de l'esclavage, et qui s'est mise en œuvre aussi après la fin de cet esclavage, Caroline Roland.
Tout à fait. Et ce sont ces formes de création, de créativité culturelle, musicale, comme on l'a évoqué en ouverture de cette partie de l'émission, qui ont permis à de nombreuses personnes qui n'étaient pas forcément des militants dans des organisations de lutte pour les droits des Noirs, de revendiquer leur droit à une égalité et leur droit à la dignité.
Anaïs Kien.
Oui, et vous revenez aussi sur les clivages qui travaillent cette communauté noire, qui ce terme d'ailleurs qui pose problème, mais que vous ne reniez pas non plus, vous ne niez pas une existence, mais vous revenez sur la signification de ce terme. Vous retravaillez cette chronologie qui a perpétuellement, parce qu'on se focalise toujours sur les années 50 et 60 aussi, mis en opposition les réformistes et les radicaux incarnés essentiellement par le Black Panther Party, qui finalement clive cette histoire sans la rendre audible. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on accepte cette partition chronologique et cette partition idéologique, on comprend à peine pourquoi, finalement, au milieu des années 50, tous ces militants noirs sont prêts pour le combat. C'est parce que cette culture politique, elle s'est forgée depuis la fin du 19e siècle pour aboutir à cette possibilité d'être enfin visible sur la place publique.
Effectivement, l'émergence d'un mouvement massif de mobilisation tel qu'on a pu le voir à partir donc, du milieu des années 50, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle repose sur une mobilisation multiples, de petite échelle, souvent peu visibles, en tout cas de l'œil des médias blancs qui ne s'intéressaient pas du tout à la question, plus visibles quand on regarde les journaux noirs que j'ai étudiés, mais qui étaient indispensables à la création d'un réseau suffisant, l'accumulation de ressources suffisantes pour l'émergence d'un mouvement massif dans les années 50. Mais de fait, dès le début, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, la communauté noire qui étaient unis, et c'est en ce sens qu'on peut garder ce terme de communauté, malgré ces divisions de classe, de genre, divisions géographiques, divisions générationnelles, étaient unis dans cet objectif commun de lutte pour l'égalité et de la reconnaissance.
Mais les moyens qu'elle mettait en œuvre n'étaient pas toujours les mêmes. Effectivement, Anaïs a cité ce terme de réformisme et de l'autre côté de radicalisme. Il y avait des moyens différents selon que l'on voulait arriver très vite à un résultat d'égalité ou imaginer qu'on montrait progressivement les marches pour pouvoir arriver à cette égalité réelle entre noirs et blancs dans la société américaine. Et évidemment, ça posait des problèmes dès le départ, expliquez-vous. C'est-à-dire que dès les années 1880, on a ces deux tendances qui sont en concurrence à l'intérieur de cette communauté noire, Caroline Roland-Diamond.
Alors, à la fin du 19e siècle, c'est surtout la tendance réformiste qui l'emporte, effectivement. Mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a toujours, sur la longue durée, la présence concomitante et entremêlée de ces deux traditions d'activisme.
C'est une boîte à outils, finalement, dans lequel on peut puiser.
Exactement.
Aussi bien dans le réformisme que dans la possibilité d'actes plus radicaux.
Et ce qui me semble, c'est que, finalement, ce sont les militants individuels, à leur niveau, qui piochaient dans cette boîte à outils pour prendre les tactiques, les modes d'action qui faisaient sens pour eux à ce moment précis de leur vie quotidienne, toujours dans cette perspective à la fois de survie, on parle surtout du 19e siècle ou du début du 20e siècle, mais on peut prolonger cette question de la survie jusqu'à aujourd'hui dans les ghettos noirs, ou alors, pour la survie et au-delà, pour la conquête de cette dignité et la reconnaissance d'une vraie égalité.
Formidable Nina Simone en 1969, Young, Gifted and Black. Vous parlez beaucoup dans votre livre, Caroline Roland Diamond, Black America, paru aux éditions de La Découverte, qui va paraître la semaine prochaine. Vous parlez beaucoup de la place des femmes, comme s'il fallait lui faire une place, parce qu'on avait oublié cette place des femmes noires dans cette histoire du combat pour l'égalité et la justice, Caroline Roland Diamond.
Bien, effectivement, on a, mis à part Rosa Parks, quand on pense à cette histoire de la lutte des Noirs pour l'égalité, peu de noms de femmes viennent à l'esprit. Ce qui m'a semblé très, plus qu'important, essentiel, de redonner leur place aux femmes, à la lutte, aux actions menées par toutes ces femmes africaines-américaines au fil de l'histoire pour l'égalité. Donc, dans mon livre, j'accorde une part très importante à cet activisme africain-américain, très souvent qui se mêlait à, enfin féminin, qui se mêlait à celui des hommes noirs, mais qui était parfois aussi séparé, spécifique, et qui me semble, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette opposition qu'on a souvent à l'esprit entre les formes réformisme d'activisme et les formes radicales de mobilisation. Cet activisme féminin, africain-américain, me semble-t-il, est celui qui a le plus emprunté aux deux traditions. Et dans ses expressions quotidiennes, a pioché, a puisé dans différents éléments de mode de mobilisation qui faisaient sens à son sens.
Vous pouvez nous donner des exemples justement de ce qui montre cette capacité à allier les deux types d'actions, par exemple.
Disons, quand on oppose ces deux formes d'action, donc la différence entre le réformisme et le radicalisme. Et on a cette question de rythme, de volonté d'arriver plus ou moins rapidement à l'égalité. Mais ce n'est pas la seule différence. Il y a une conception très différente de la société américaine. La tradition réformiste d'activisme, finalement, considère que les institutions américaines, sociales et économiques et politiques, telles qu'elles existent, si elles sont réformées, permettront l'égalité. Tandis que la vision plus radicale considère qu'il y a un problème de fond, structurel, que ces institutions mêmes sont racistes et qu'il faut les modifier en profondeur. Donc pour en venir aux femmes et prendre un exemple, on peut penser à toutes ces militantes dans les années 60, en particulier 70, militantes de la défense des bénéficiaires de l'aide sociale. Alors c'est un mouvement animé principalement à cette époque, dans beaucoup de quartiers, par des femmes noires, mais qui est un mouvement interracial, qui regroupait aussi des femmes blanches ou latinos. Et donc ces femmes se mobilisaient de manière, pour un objectif réformiste, qui était l'amélioration des conditions de vie.
Pour tous.
Pour tous, enfin, en l'occurrence pour les habitants des logements sociaux qu'elles occupaient. Mais elles avaient une conscience très radicale des sources de l'oppression, des sources des problèmes, l'existence, la persistance de ghettos, de quartiers laissés à l'abandon dans ces villes américaines, qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dans leur pratique, elles mêlaient une analyse radicale et des formes très réformistes de mobilisation, de protestation auprès des autorités municipales ou des bailleurs sociaux.
Anaïs Kien.
D'ailleurs, vous dites bien, et c'est assez éclairant pour l'ensemble du sujet, à quel point cet apport majeur du militantisme très quotidien aussi féminin est rendu incompréhensible par l'image, la première image, la première visibilité du militantisme féminin noir aux États-Unis, qui est justement une image très liée au Black Panther et très liée à la violence armée. Caroline Roland Diamond.
C'est un des problèmes. Finalement, on a l'effacement du militantisme féminin africain-américain qui est dû à toute une série de facteurs historiques et historiographiques, fait que quand finalement l'activisme féminin revient sur le devant de la scène, c'est dans les années, voilà, au début des années 70, fin des années 60, début des années 70. Effectivement, il est très lié au mouvement du Black Power et au Black Panther Party en particulier. Et on a cette image, finalement, d'un activisme féminin noir très radical. Et au moment où il apparaît sur la scène politique, tout ce mouvement du Black Power est mis en position et sur la défensive. On est dans une Amérique de plus en plus conservatrice dans les années Nixon. Et finalement, cet activisme est discrédité avant même qu'on lui ait donné la parole. Alors que si, et c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, si on reprend cet activisme féminin et qu'on regarde en arrière sur la longue durée, on comprend qu'il y a une longue tradition et que cet activisme ne surgit pas soudainement, mais qu'il est le résultat d'années, de décennies de mobilisation et de radicalisation face aux frustrations de les lenteurs d'évolution.
Oui, c'était l'exemple que vous donnez, par exemple, dans les années 1890, du taux d'activité professionnelle des femmes noires américaines qui est sans égal, dites-vous, dans toute la société américaine. Les femmes blanches ou les femmes d'autres origines n'ont pas un taux d'activité aussi important, professionnel, que les femmes africaines-américaines. C'est donc montré qu'effectivement, elles sont rentrées très vite dans le marché du travail, très vite dans la vie urbaine qui leur était proposée, et qu'elles avaient souvent fui, expliquez-vous, parce que elles voyaient peut-être plus de protection possible, expliquez-vous, dans cette vie urbaine que dans le sud profond dont elles étaient souvent issues, Caroline Roland-Diamond.
Alors oui, donc, si on remonte à la fin du 19e siècle, les femmes noires, effectivement, avaient un taux d'activité professionnelle nettement supérieur aux autres femmes, en ce sens qu'elles travaillaient principalement comme domestiques pour des familles blanches dans ces villes du Sud qui sont en plein développement à cette époque. Là, le taux d'activité professionnelle de ces femmes noires est aussi à mettre en regard avec la faiblesse du taux d'activité professionnelle des hommes noirs à cette époque. Et c'est pour ça que la place de la femme africaine-américaine dans la famille et dans la communauté noire est devenue si importante, parce qu'elle joue un rôle économique essentiel à la survie de la famille et de la famille élargie à cette époque. Et c'est vrai qu'on assiste à des migrations de plus en plus conséquentes, donc non seulement d'hommes, mais également de femmes, souvent de femmes seules, qui quittent le sud rural, les campagnes isolées, pour venir s'installer dans des villes comme Atlanta ou Memphis, parce que dans ces villes, non seulement elles pouvaient trouver un travail plus rémunérateur que de travailler dans les champs de coton, mais également elles étaient protégées de toutes les violences sexuelles auxquelles elles étaient sujettes, voilà, dans la vie quotidienne, dans les campagnes rurales.
Dans les campagnes rurales. Anaïs.
Oui, d'ailleurs, je trouve que c'est une des grandes qualités de ce que vous proposez, Caroline Roland-Diamond, c'est de rappeler que parfois l'argument de lutte antiraciste a saboté d'une certaine façon l'analyse des causes des inégalités au sein de la société américaine. C'est-à-dire que, à force, notamment, là, on prenait un exemple tout à l'heure des droits civiques qui sont devenus la tête de pont de la lutte pour l'égalité, en oubliant les raisons socio-économiques aussi qui créent l'inégalité, pas seulement pour les Noirs d'ailleurs, mais pour toutes les populations marginalisées socialement au sein de la société américaine.
Mais c'est pour ça que quand on atteint les grandes victoires législatives du milieu des années 60, la loi sur les droits civiques de 64 et la loi sur le droit de vote de 65, qui finalement recréent les conditions de l'égalité juridique des Noirs.
Qui auraient été les conditions théoriquement de la fin de l'esclavage et de 1865, c'est un siècle plus tard.
Exactement,
on a mis un siècle pour y arriver après un retour en arrière assez considérable.
Mais au moment de ces victoires, la majorité de l'opinion publique pense que la question noire, entre guillemets, comme on l'appelait à l'époque, a été résolue. Et elle s'interroge, elle ne comprend pas pourquoi il y a une explosion de quartiers en 64 à Harlem ou à Watts en 65, puis après toute une série d'émeutes urbaines.
Juste après cette victoire.
Alors que précisément, le mouvement noir avait censé avoir réussi et rempli ses objectifs et être satisfait. Donc, et c'est précisément parce qu'on oublie l'élément essentiel qui est l'aspect économique et social, ces inégalités économiques et sociales, qu'on ne comprend pas, qu'on s'interroge sur ces explosions. Mais si on regarde le long terme, on comprend très bien que le problème économique et social n'a pas été résolu et il perdure jusqu'à aujourd'hui.
Et en 1967, Aretha Franklin chante « A change is gonna come ».
There's an old friend that I once heard say something that touched my heart. and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come.
Over kidnapping charges. The most you're gonna get is 5 years. You get out in 1 year, huh?
Kiss me, man.
What?
Kiss me. When I'm being fucked, I like to get kissed.
Hey, come
a lot.
On, come on, come on.
What's he doing?
Hey, will you get back
what
over
are you
there?
What are you in there for?
Will you What's get the fuck back there? Get over there, will you?
He wants to kill me so bad he can taste it.
Oh, God, I was gonna kill
him. Erica! Erica!
Will you?
Erica!
Un extrait d'un film que nous connaissons bien, que nous aimons bien, qui a marqué notre adolescence, en tout cas la mienne, à savoir Un après-midi de chien de Sidney Lumet avec Al Pacino en preneur d'otage dans une banque, autant que je me souvienne, et qui, lorsqu'il sort dans la rue, évoque un nom qui ne dit peut-être pas grand-chose aux Français, mais qui dit beaucoup aux Américains, pour compléter ce que disait Caroline Roland-Diamond. Bonjour Philippe Artière.
Bonjour.
Ce nom, c'est Attica. Et c'est le titre aussi d'une exposition dont vous êtes le commissaire associé au Point du Jour à Cherbourg, qui ouvrira dans 2 jours, donc le 11 septembre, mais dont c'est aujourd'hui le 45e anniversaire de l'événement, puisque c'était un événement qui a commencé le 9 septembre 1971. Qu'est-ce qu'était Attica ?
Attica, c'est une prison immense et, je dirais, monstrueusement ordinaire de l'archipel pénitentiaire américain au début des années 70. C'est plus de 2000 détenus dans, disons, un coin assez reculé de l'État de New York, et 2000 détenus qui viennent massivement de la Grande Pomme, hein, qui viennent massivement de Manhattan. Donc c'est une... et là, on a parlé des femmes. Bon, c'est une chose intéressante. C'est-à-dire pour les femmes, ça coûtait très très cher, pour les compagnes, les copines, les enfants, de venir voir les détenus. Donc c'est un isolement déjà.
Plus de 50% de Noirs américains.
Plus de 50% de Noirs américains, des Portoricains, des Latinos, et avec une population, je dirais, qui partage cette culture politique que vous venez d'évoquer, Caroline. Et j'ai envie, puisque c'est le 45e anniversaire, et je trouve que cette exposition est d'abord ça, c'est d'abord une exposition qui veut faire entendre ce qui s'est passé et qui rejoint des préoccupations qui sont les miennes, c'est-à-dire raconter aussi cette histoire de la construction du sujet moderne et du sujet occidental, y compris chez les minorités. Je vais vous lire simplement quelques-unes des demandes pratiques qui sont dans l'Attica Manifesto. Appliquer la loi sur le salaire minimum de l'État de New York à toutes les institutions de l'État. Stop au travail d'esclaves. 2. Autoriser tous les prisonniers de l'État de New York à être politiquement actifs sans exercer d'intimidation et de représailles. 3. Donnez-nous la liberté religieuse véritable. 4. Mettre fin à toute censure des journaux, des magazines, des lettres et autres publications reçues de l'extérieur. Voilà, je m'arrête là avec évidemment cette revendication sur la religion dont on n'a pas parlé et qui est essentielle.
Et c'est donc une révolte qui se déroule donc du 9 septembre au 13 septembre, qui se termine dans un bain de sang. Et Caroline Roland-Diamond, vous avez participé, outre votre livre sur Black America, au catalogue de cette exposition donc qui est organisée au Point du Jour à Cherbourg autour d'Attica. Et qu'est-ce que cet événement? Comment prend-il place dans cette histoire, justement, de la contestation après l'acquisition des droits civiques en 1965 et de ce moment très particulier des contestations très nombreuses autour du Black Panther, comme disait tout à l'heure Anaïs Quien, ou des autres mouvements qui viennent de cette communauté noire? Comment Attica prend une place au milieu de tout ça?
Mais Attica est un événement symbolique de la montée des revendications et des expressions radical de cette frustration des Noirs américains à cette période. On a une multiplication des actions à la fin des années 60 et au début des années 70. Depuis l'arrivée de Nixon à la Maison Blanche, le contexte qui avait pu paraître peut-être plus propice avant devient difficile. La répression politique est de plus en plus présente. Et alors on assiste à une situation paradoxale qui est la multiplication des fronts de lutte avec l'apparition, donc, la continuité des actions du Black Power qui se manifeste à la fois donc, dans les prisons avec, comme exemple, cette révolte des détenus d'Attica, mais également sur les campus avec l'émergence des mobilisations pour la création des départements d'études noires ou dans les quartiers. Donc on a toujours la poursuite des actions autour de cette question du Black Power, mais également la multiplication de l'apparition de phénomènes similaires dans les communautés latino ou amérindiennes et même asiatiques, tout en gardant en même temps, à l'arrière-plan, la poursuite de la mobilisation contre la guerre du Vietnam, qui rallie très massivement contre elle, l'apparition des mouvements féministes, la mobilisation de la communauté gay aux États-Unis. Enfin, donc il y a une multiplication des fronts de mobilisation dans un contexte de répression de plus en plus pesante.
Anaïs Quien.
Et Attica, c'est l'événement d'ailleurs qui catalyse d'une certaine façon de nombreux mouvements. D'ailleurs, le déclencheur événementiel de cette émeute, c'est la mort sous les coups des gardiens de prison d'un militant, justement, du Black Panther Party, qui aurait rejoint le parti dans le cadre de sa détention.
Oui, c'est George Jackson. George Jackson et Jonathan Jackson sont très connus parce que ils publient en fait une correspondance après la mort de Jonathan, tué par la police. Et par ailleurs, George Jackson va être, je dirais, le Pierre Auvernet.
Pierre Auvernet, c'est ce militant maoïste qui est mort devant les usines Renault et qui est devenu une sorte de symbole, un martyr, puisqu'il y a eu plus de 200 000 personnes, dit-on, à son enterrement au Père Lachaise en 1972.
Et donc, la mort de Jackson, elle est importante parce que même si c'est à Saint-Quentin, en Californie, le lendemain, l'information circule très vite, le lendemain, mouvement de protestation, il y a un Jackson Day et les prisonniers d'Attica portent tous un brassard noir, ne mangent pas le petit déjeuner et restent silencieux. Donc ça, c'est pas une cause, c'est simplement ce contexte-là où on voit que tout se connecte.
Et ce qui est très intéressant dans ce chapitre que vous consacrez à cet après 1965, Caroline Roland-Diamond, et ce qui vient d'être dit par Philippe Artière, c'est que les élites blanches en particulier se posent des questions parce qu'ils se disent on a accordé ces droits en 1965 grâce à Johnson et tout cela s'est bien passé. Et malgré tout, ils ne sont pas contents, ces Noirs. Et donc, ils ne comprennent pas la dimension révolutionnaire et sociale qu'il y a derrière ça, où ils font semblant de ne pas la comprendre, en tous les cas, Caroline Roland-Diamond.
Oui, je pense qu'ils la comprennent très bien. Il n'est pas compliqué de voir qu'il y a un maintien de taux de pauvreté extrêmement fort dans les ghettos, de voir qu'il y a que les écoles restent très inégalitaires, qu'il y a des problèmes de transport public, alors qu'ils se manifestent notamment par le problème très concret de comment trouver un travail quand il n'y a pas de transport et comment aller voir, rendre visite en prison à ses proches. Bon, ils comprennent très bien les sources des problèmes, mais après, résoudre ces problèmes...
Et désigner le coupable
peut-être. Ou les coupables.
Les coupables c'est remettre en question les structures mêmes inégalitaires de l'Amérique capitaliste. Et là, personne ne s'engage dans cette voie à la fin des années 60, au début des années 70, et ni même aujourd'hui.
Et pour faire une exposition comme celle que vous avez coordonnée à Cherbourg, au Point du Jour, Philippe Artière, en tant qu'historien, on a des documents nombreux, parce que, évidemment, des documents écrits, on en a, mais des images et des sons, on en a aussi.
Oui, on en a énormément parce que la particularité de la mutinerie d'Attica, c'est que dès le premier jour, il y a une double revendication des mutins qui occupe une des quatre cours d'Attica. C'est un, l'entrée d'observateurs extérieurs qui sont pas des observateurs neutres. Certes, il y a des juristes. Mais il y a des militants. Künstler, William Künstler est une grande figure avocate et activiste. Il y a évidemment des gens comme des gens qui viennent du New York Times.
Mais les journalistes n'auront pas toujours un regard très très compréhensif vis-à-vis de ces émeutes-là. Mais... À la fois certains les soutiendront parce que donc cette émeute va durer plus d'une semaine avec un rituel de reddition terrible pour les émeutiers. À la fin, on les voit nus au milieu des cadavres. Il y a plus d'une trentaine de morts.
Il y a 43 morts. Il y a 33 détenus mutins qui sont tués et 10 otages. Dans un assaut qui évoque, on le voit beaucoup dans les images, et symboliquement, c'est ce qui va choquer. Il y aura un parallèle entre Mailay, le massacre de Mailay, de ce village
au Vietnam,
et Attica, c'est la brutalité des troupes. Et ça se fait via des hélicoptères, symbole de cette Amérique impérialiste en Asie. Et par conséquent, le fait qu'il y ait des observateurs, mais il y ait aussi une équipe de télévision, et que ce soit relayé minute par minute, ça, c'est un événement au-delà de l'histoire des Noirs américains, au-delà de l'histoire de l'Amérique. C'est la première mutinerie où on voit s'organiser de l'intérieur une communauté extrêmement dépourvue par ailleurs.
Ben, pas dans tous les médias. Certains journaux vont totalement fantasmer l'extrême violence de certains détenus en affirmant que les otages ont été égorgés par certains détenus. Donc on a à la fois les journalistes, les gentils journalistes qui vont découvrir à cette occasion cette cause et porter les images de cette révolte et les idées de cette révolte à l'extérieur. Mais on garde aussi quand même un ennemi et plusieurs ennemis, même sur le fantasme de violence, cette sensation d'invasion finalement de violence noire qui reste quand même très prégnante dans la société américaine de ce début des années 70.
Oui, les images que nous montrons, alors il y a plusieurs sources, il y a des images de presse, mais il y a aussi les images que Elizabeth Fink, qui est morte l'année dernière et que j'avais rencontrée à Brooklyn, qui était une des avocates de cette coalition d'avocats qui s'est mobilisé après le massacre, hein, le massacre dont McKay, qui est la figure majeure du rapport qui va être établi par des étudiants, par beaucoup de gens, oui, après les événements, McKay dit c'est le plus gros massacre qu'il y a eu depuis la guerre civile. Le rapport commence comme ça. Donc c'est pour vous dire cette violence-là. Mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant, et on voit que stratégiquement et politiquement, il se passe une chose incroyable, c'est que ça se passe dans l'État de New York. Et dans l'État de New York, c'est un lieu où justement on essaye, Oswald, qui est le type qui s'occupe de des prisons là-bas, il essaye de réformer la prison. Et il a tout à fait en tête un certain nombre de questions. Et il va être arrêté dans son mouvement par Rockefeller, le gouverneur, celui qui crée le MoMA pour sa maman, mais en même temps qui tue 43 personnes en 10 minutes.
Oui, donc c'est une exposition qui commence dans 2 jours, il faut le dire, à Cherbourg, au Point du Jour, au Centre d'Art, donc 107 Avenue de Paris, qui durera jusqu'au 4 décembre. Un dernier mot avant que nous concluions avec vous, Caroline Roland-Diamond, pour votre livre Black America.
Mais je voulais juste dire que, revenir sur ce que vous disiez à l'instant, sur la couverture médiatique de la mutinerie d'Attica, elle est, effectivement, elle a été en grande partie très négative, et ça correspond à un processus de diabolisation du Black Panther Party et plus généralement du mouvement du Black Power. Mais ce problème de la couverture médiatique, et je pense qu'on ne peut pas ne pas utiliser cette expression à l'antenne aujourd'hui, enfin ce matin. Là, on parle d'Attica début des années 70, mais et avec cette couverture médiatique négative elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et une des questions essentielles pour la communauté africaine-américaine aujourd'hui est la question de l'incarcération massive. Et le fait que, alors que c'est un problème si important, parce qu'il non seulement parce que c'est du. Voilà.
Sur des parcours
le
de
symbole
vie,
de politique raciste, mais aussi parce qu'il déstructure fondamentalement et en profondeur la vie sociale et économique dans les ghettos, et qui crée une image très négative des Noirs américains. Mais le fait qu'on ne parle quasiment pas de cette incarcération massive. Et précisément le symbole de l'incapacité ou du refus de s'attaquer aux causes profondes du maintien des inégalités actuelles dans la communauté africaine-américaine. Et je pense que c'est essentiel justement de s'intéresser à cette question pour pouvoir ne serait-ce qu'avancer dans la bonne voie
pour mieux comprendre.
Pour mieux comprendre et au moins peut-être pour résoudre ou avancer vers le progrès.
Et c'est vrai qu'en en creux de cette image de la violence, il y a une créativité extraordinaire. Post-Attica et des artistes afro-américains qui produisent des œuvres de soutien, mais aussi parallèles. Et ça, je pense que c'est important d'y insister, c'est-à-dire qu'il y a de la musique, il y a aussi là cette reprise de Archie Shepp fait donc ce morceau qui est Attica Blues.
C'est justement peut-être très important aujourd'hui, justement, parce que vous concluez avec un terrible chapitre, hein, Caroline Roland-Diamond, sur la question de la démobilisation collective aujourd'hui des mouvements noirs.
Alors, au moment où j'ai écrit le chapitre, c'était effectivement l'impression que j'ai, c'est l'impression que je garde encore aujourd'hui à cette nuance près qu'il faut quand même parler du mouvement Black Lives Matter
effectivement que c'est un mouvement qui est né de ces morts nombreuses de jeunes gens en particulier tués par la police dans des villes, voilà. Et qui sont des jeunes gens noirs, et effectivement un mouvement qui est né, qui a surgi, qui s'appelait Black Lives Matter, donc les vies noires comptent donc dans la société américaine,
donc là qui témoigne d'une mobilisation au moins d'une partie de la population africaine-américaine, et qui est une mobilisation large, donc qui permet de modérer mon pessimisme, mais bon, il faut voir sur le long terme ce que va donner ce mouvement. Bon, je ne suis pas complètement optimiste vu et ça revient à la question des élections et des élections présidentielles, vu ce qui va, bon, c'est pas quel va être l'avenir politique des États-Unis, mais il est plus que probable que le prochain président la prochaine présidente américaine mène des politiques qui ne soient pas entièrement favorables aux Africains-Américains.
Oui, et puis d'une certaine façon, une partie des États-Unis ont dû considérer comme plus ou moins réglée cette question-là avec l'élection et la réélection d'un président noir et donc d'une femme noire à ses côtés à la Maison-Blanche, et que d'une certaine façon, on était arrivé à un terme et qu'on pouvait repartir peut-être dans l'autre sens aussi brièvement.
C'était la victoire du mouvement pour les droits civiques. C'était la levée du dernier obstacle à l'égalité l'entrée d'un noir à la Maison Blanche. Mais cette Amérique post-raciale, comme on a pu la proclamer au moment de l'élection, a prouvé qu'elle était, c'était un mythe, et les inégalités raciales se sont accentuées au cours des années Obama.
Merci beaucoup à vous tous. Merci à Jacques Dallarin qui a ouvert cette émission du jour avec son petit précis d'histoire à l'usage des candidats. Il nous a raconté l'élection qui succédait à la mort de François d'Assise. Merci donc à vous, Philippe Partière, qui êtes commissaire associé de Attica USA 1971 au Point du Jour à Cherbourg. Et merci à vous, Caroline Roland-Diamond, d'être venue pour nous présenter votre livre qui paraît la semaine prochaine, Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice aux éditions La Découverte. Mais il est 9h57 et il est l'heure de réécouter la romancière Catherine Cusset qui accompagne notre journée spéciale donc consacrée à l'Amérique aujourd'hui avec ses chroniques américaines. Et aujourd'hui, à cette heure-ci, à 9h57, Good Job.
Le modèle pédagogique américain se résume en deux mots. Good job. Ces mots, j'ai eu du mal à les prononcer tant je les trouvais ridicules. Fallait-il féliciter ma fille dès qu'elle avait fait un pas, un row ou monté un barreau d'échelle? Je lui disais bravo, certes, mais ma voix manquait de chaleur et de conviction. Je concluais toujours « Tu vois, ce n'est pas si difficile. Demain, tu monteras peut-être en haut de l'échelle, comme Sophie. » Elle entendait que je la rabaissais, que je la comparais, que je n'étais pas satisfaite de ses accomplissements. Elle a grandi en intériorisant la critique, comme j'ai grandi moi-même, avec un surmoi sévère penché sur mon épaule, ce n'était jamais assez bien. Les enfants français m'étonnent. Ils sont polis, tiennent la porte, disent « bonjour madame », respectent le nom, font des dessins où les fenêtres ont des rideaux à carreaux et les cheminées un panache de fumée. L'enfant américain jette des couleurs sur du papier et sa mère s'exclame « Tu as dessiné une maison ? Et là, c'est une voiture, n'est-ce pas ?» Elle ne lui dit pas qu'il pourrait faire mieux, ne remarque pas le feutre qui dépasse la ligne. « Good job !» Ces mots « good job » conditionnent le rapport au monde. Le positif contre le négatif. La moitié pleine du verre contre la moitié vide. Savoir admirer, s'extasier, être naïf. Ne pas avoir peur de dépasser la ligne, ne pas avoir peur d'échouer, ne pas avoir peur de créer.
C'était l'une des chroniques américaines de Catherine Cusset. Good job, Catherine Cusset. Donc, ces chroniques servent de fil rouge à cette journée spéciale sur France Culture, l'Amérique aujourd'hui. Catherine Cusset fait paraître en cette rentrée l'autre qu'on adorait aux éditions Gallimard. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Nous avions la chance d'avoir avec nous à la technique Jean-Frédéric. C'est à la réalisation Véronique Samuilov. Merci à toutes et merci à tous. La semaine prochaine, la Fabrique de l'Histoire vous parlera de politique autour de la politique du patrimoine et nous recevrons lundi Dominique Poulot, historien spécialiste de cette question de patrimoine.